On va continuer notre méditation sur ce soupir de Dieu. Tu peux commencer à mettre la diapo. On lit en 2 Chroniques, chapitre 7, le soupir de Dieu qui dit « Ah, si mon peuple, si mon peuple !» Et on avait vu que le désir de cette série de méditations, c'est que nous-mêmes, nous puissions soupirer après ce désir, cette aspiration à retrouver cette vie spirituelle avec le Seigneur, cette nouvelle Pentecôte, ce renouvellement spirituel. Et pour ça, Dieu nous a donné un mode opératoire, il nous a donné des pistes. Alors, on avait commencé par ce soupir de Dieu, si mon peuple, et on s'était aperçu que le premier signe de dessèchement, le premier signe qui devrait nous faire réaliser qu'on a besoin de retourner à la source, c'est quand on perd cet enthousiasme. Hein. Quand on a soif, notre corps dit « Oh, il faut boire ». Quand on perd l'enthousiasme, il faut qu'on aille à la source du Seigneur. Après, on avait développé qu'il y a des barrages, justement, qui peuvent empêcher cette grâce de Dieu. Alors, le Seigneur nous invite à cette simplicité de cœur, à cette humilité de cœur. Il nous appelle à le rechercher dans la prière et dans la foi. Si on s'attend à toi, à chercher sa volonté. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et surtout, avoir cette obéissance. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je le fais. Et s'il manque, si un seul de ces quatre catégories peut faire un obstacle à la grâce de Dieu, alors que nous puissions nous entretenir de ça. Et puis, nous avions eu la semaine dernière, on s'était posé la question, mais est-ce qu'on veut vraiment rentrer dans le projet de Dieu? Le peuple d'Israël, pardonnez-moi, je pense qu'il n'était pas pire que nous en fait. Hein. Je crois que de manière générale, on est tous pareils, qu'on soit noir, jaune, américain, français, chinois, africain. Le cœur de l'homme, il a la même forme et la même couleur. Hein. On a la même nature pécheresse et on peut de temps en temps avoir des aspirations, mais on s'était aperçu que de temps en temps, on est capable de dire « Oui, Seigneur, mais... » Ah oui, j'aimerais tellement, Seigneur, vivre ces flaques d'eau vive, j'aimerais tellement vivre cette bénédiction spirituelle, j'aimerais tellement retrouver cette ardeur spirituelle. Mais, ça fait tellement longtemps. Et il y a de temps en temps, comme ça, dans l'église de Jésus-Christ, une forme de fatalisme. Dans l'esprit d'un frère, d'une sœur, une sorte de fatalisme. J'aimerais tellement, mais... Je sais plus quoi faire avec tout ce qui m'arrive. Et on avait vu qu'il y avait trois blocages. Et c'était dans Nombre, chapitre 13. C'est ce passage, on avait pris cet exemple, où le peuple d'Israël s'est sorti d'Égypte, ils avaient traversé le désert. Ils n'avaient plus que la montagne pour rentrer dans le pays promis. Ils n'avaient plus que la montagne. Quelques mètres, peut-être quelques kilomètres, mais c'était là, c'était à leur portée. Et on avait vu qu'il y avait trois raisons que le peuple a évoquées. Ah oui, mais qu'est-ce qui va se passer? La peur. On avait vu également qu'il y avait un esprit de découragement. Comment ça se fait que 10 personnes ont réussi à décourager des centaines de milliers de personnes? C'est pas un problème de personne, c'est une question de mentalité. Et puis, cette dernière phrase, on va développer cette pensée ce matin. Oh, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Ah, si mon peuple! Si mon peuple. Et je voudrais que l'on puisse développer cette troisième pensée ce matin. Quelques-uns peuvent se dire, mais je suis si petit, je suis si misérable. Tu veux bien passer la diapo d'après, s'il te plaît, Chantal? Avec cette question que Paul, dans les Écritures, 1er épître aux Corinthiens, nous pose. Mais dites-moi, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Oh! Mais vous ne le savez pas, c'est une nouvelle! On ne vous a jamais dit! N'avez-vous jamais reçu la grâce du pardon de vos péchés? N'est-il pas celui qui a fait un changement, un bouleversement, un jour? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous êtes! Pas vous serez! Pas si vous lisez 50 chapitres par jour, alors peut-être que... Mais nous sommes, vous êtes. Si vous avez confessé vos péchés, que vous avez eu cette audace également de dire, Seigneur, change mon cœur, change ma vie. Si la nouvelle naissance a commencé dans votre vie, alors vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en vous, amen. Mais rien que ça, ça devrait déjà... Je suis qu'une sauterelle. Non, tu es le temple du Saint-Esprit. Mais ça change tout. Ça change tout. Ce matin, j'aimerais vraiment travailler cette notion. N'ayons pas cette fausse humilité, qui n'est pas une fausse humilité, en fait, c'est un mensonge du diable. De vivre dans cette sorte de sous-estimation. Oui, alors soyons clairs, il faut être humble. L'orgueil précède la chute. L'orgueil, on l'a vu, l'endurcissement de cœur nous sépare, fait blocage à l'œuvre de Dieu. Alors il faut de l'humilité, amen. Mais pas cette sorte d'humiliation, de dépréciation. Il faut de la modestie, mais pas une sous-estimation, vous comprenez? Oui, il faut être simple, petit, on est insuffisant, bien sûr. Mais nous sommes, par le Saint-Esprit, capables de faire des choses au-delà de ce qu'on peut penser même ou demander. Amen. Alors oui, nous sommes misérables, oui, nous sommes petits, oui, nous sommes insignifiants, oui, nous ne sommes pas plus gros qu'un moucheron, encore un moucheron, encore plus petit qu'une sauterelle. Oui, je suis ça. Mais parce que je suis le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas à moi que je dois regarder, c'est à ce que le Seigneur peut faire au travers de moi. Amen. Et c'est ça, c'est en ce sens-là que je dis, n'ayons pas cette sous-estimation. Parce que si nous sommes, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, je veux retrouver cette vigueur, Seigneur, je veux remplir cette vie. Et le Seigneur, il va nous écouter. Mais si dès qu'il va vouloir mettre le turbo, oh non, je peux pas, oh non, pas moi, oh non, mais tu te rends compte, non, moi je suis pas capable, non. Mais alors, ça va pas. C'est comme si on était tout impatient de vouloir conduire une Ferrari, et puis dès qu'on dépassait le 50 km/h, oh non, ça va trop vite. Mais c'est pas possible. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, pas moins que ça. Pas moins que ça, mes bien-aimés. Vous voulez bien lire Juges avec moi? On avait déjà lu ce passage, c'est avec Gédéon, Juges chapitre 6, mais on va revoir quelques éléments justement de ce qui s'est passé avec cette rencontre avec l'ange de l'Éternel. Gédéon faisait partie de ces gens qui se voyaient sans valeur, sans importance. Juges chapitre 6, versets 11 à 16. Alors, vint l'ange de l'Éternel. Alors, pour un petit commentaire, sachez que l'ange de l'Éternel, quand vous lisez l'ange de l'Éternel, en fait, c'est l'apparition de Jésus dans l'Ancien Testament. Amen. Mais comme les gens ne savaient pas que c'était Jésus, il s'appelle l'ange de l'Éternel. Hein. Ce n'est pas seulement un ange, c'est l'ange de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle une théophanie, c'est l'apparition de Dieu dans l'Ancien Testament. Voilà, je ferme la petite clause théologique du matin. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, abattait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Belle salutation, hein. Gédéon lui dit, « Ah ! Ah là 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 ! Mais attends, mon Seigneur ! L'Éternel était avec nous. Mais alors pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont ? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils nous nient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Oh, ouais, Seigneur, là. Mais avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille. C'est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. »
Gloire à Dieu.
Oh! Alors moi j'ai une question à vous poser. Quand l'ange parle à Gédéon, il le salue comment? Par cette salutation, vaillant héros. Ok? Carte, vaillant héros. C'est écrit là. Il lui dit, mais moi je suis le plus petit, je suis le plus misérable, je suis le plus petit, je suis. Est-ce que c'est ce qui colle à un vaillant héros? Bon, donc ma question est, qui a raison? Bien sûr. Et de temps en temps, dans nos cœurs, on est pareil. Le Seigneur nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je veux répondre les dons. Je veux vous équiper de la puissance d'en haut. Vous n'avez pas lu ces phrases-là?
Amen.
Et nous, on dit, mais je suis nul, je peux pas, j'y arrive pas. Qui a raison? Mais qui est-ce qu'on écoute le plus souvent? Mais est-ce que c'est vraiment nous? Ou est-ce que c'est l'ennemi de notre âme? Parce qu'on est en pleine guerre. C'est pas une situation d'une conversation comme ça et puis il va continuer à faire sa petite vie. Il y a une notion de délivrance, il y a une notion de conquête, il y a une notion d'avenir. Il y a un enjeu crucial là, mes bien-aimés. Et quand nous disons, mais je suis petit, je suis misérable, je peux pas, je suis insignifiant. On regarde à nous, mais on oublie qu'il y a un enjeu qui est spirituel. On oublie qu'il y a un enjeu pour l'église, qu'il y a un enjeu pour les âmes qui sont dehors. C'est pour ça que le diable est en train de vous dire « Vous êtes misérable, vous êtes tout petit, c'est pas pour vous !» C'est parce qu'il sait que le jour où vous réaliserez que vous êtes véritablement le temple du Saint-Esprit. Mais là, c'est là qu'il va commencer à dire « Punaise, ça va rentrer dans mes lignes. Punaise, il y a des gens qui vont être sauvés. Punaise, il y a des gens qui vont venir à l'église d'ici et ils vont entendre une parole de prophétie qui va toucher leur cœur. Et ils diront « Mais véritablement, Dieu est au milieu de ce lieu !» Alors il préfère vous faire croire que vous êtes incapable, que vous ne pouvez pas communiquer un don spirituel, que vous n'êtes pas capable de parler à votre voisin. Oh, et tu te rends compte, si tu lui dis que tu vas à l'église, qu'il va dire? Alors on se tue, on se tait. Et on se dit, je suis si petit, je suis si misérable, même à l'église, je suis le plus petit de tous les chrétiens. Mais qui a raison? L'ange ou nos logiques? Dieu a raison, mes bien-aimés.
Amen, amen, amen.
Nous sommes des vaillants héros. Est-ce que vous pourriez dire, je suis un vaillant héros, s'il vous plaît?
Je suis un vaillant héros.
Un peu plus convaincu, s'il vous plaît. Ok, tout le monde, même derrière, là, s'il vous plaît, dites-le bien haut et fort.
Je suis un vaillant héros.
Non pas parce que vous surestimez, mais parce que c'est Dieu qui vous le dit, d'accord? C'est pas une question de dire je suis meilleur, je suis le plus misérable. Mais Dieu me voit comme un vaillant héros. Et c'est ça la notion qui est très importante. Mais c'est la question, la diapo qu'il faut mettre d'après. Nous nous voyons par rapport à l'évaluation que nous faisons de nos propres vies. Mais Dieu voit l'œuvre qu'il peut faire en nous.
Amen. Amen.
Et ça, c'est toute une autre perspective. Dans les chants, nous avons chanté d'être renouvelés dans notre vision. Soit ma vision, soit mon cap. La parole de Dieu nous dit que lorsque les cœurs se convertissent, un voile est ôté. Lorsque Paul s'est converti, des écailles sont tombées de ses yeux. Lorsque nous commençons à adhérer à la parole de Dieu, à serrer la parole de Dieu sur notre cœur, alors il y a une transformation de notre vision. Vous savez quel est notre grand problème? C'est que bien souvent nous nous évaluons par rapport à notre passé et à notre présent. On se juge naturellement par rapport à ce qu'on a fait ou par rapport à ce que l'on vit. Mais ça, c'est une approche naturelle. Le Seigneur, il voit l'œuvre qu'il est capable de faire au travers de nous.
Amen.
Parce que le Seigneur nous voit de loin. Le Seigneur, il vient nous chercher dans notre misère. Mais franchement, dans quel état est-ce que nous étions dans notre misère? Qu'est-ce qu'on aurait pu projeter? Qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer? Dans notre misère, rien de bon, rien de bon. Et le Seigneur, il voit autre chose. J'ai un ami, c'est un artiste sculpteur. Et quand il est devant un rocher informe, moi je vois un gros caillou. Il dit, oh, trop bien. Et là, il imagine déjà la courbure de ce qu'il va donner au rocher. Dans un moindre reflet du caillou, il voit déjà l'ombre de la forme qu'il va créer. Moi je vois un gros caillou, mais lui, il voit déjà la sculpture qu'il va faire. Nous nous voyons comme des gros boulets, n'est-ce pas? Mais Dieu voit déjà l'œuvre qu'il veut faire en nous. Et Dieu voit comme ça. Qui a raison? Moi ou l'artiste? En finalité, c'est l'artiste. Parce que c'est lui qui va réussir à faire le travail. Parce qu'il a déjà cette vision. Parce qu'il a déjà ce cœur. Quand nous regardons, et on avait fait cet exercice une fois, une petite graine de pomme, qu'est-ce qu'on y voit? Une simple petite graine? Ou on ce qu'il n'y voit déjà l'arbre qui portera beaucoup de fruits? Nous, nous regardons à la petitesse de notre vie, mais le Seigneur a vu le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Pas juste pour nous asticoter pendant le temps de la réunion, mais pour porter du fruit. Bien souvent, nous regardons à nous-mêmes. Nous regardons à nos erreurs que nous avons faites sans Dieu. Nous regardons à nos choix que nous avons faits sans Dieu. Nous regardons à nos échecs que nous avons vécus parce que nous l'avons fait sans Dieu. Alors on se dit, ça sert à rien. Je suis qui? Je suis rien. Si nous voulons vraiment retrouver une nouvelle Pentecôte, si nous voulons vraiment nous laisser renouveler en profondeur, il va falloir que nous acceptions la vision de Dieu.
Amen. Amen.
Il va falloir non pas une surestimation de notre personne, mais dire, Seigneur, je veux te laisser me regarder et j'accepte que tu me regardes tel que je suis. Non pas comme j'ai été, non pas comme je suis, mais comme toi tu veux que je devienne. Vous savez, c'est extraordinaire parce que quand on parle avec un pécheur, pas pécheur à la ligne, un pécheur, un homme qui vit dans le péché, vous avez sûrement eu la même expérience, mais par leur comportement, par leurs agissements, on est capable de leur dire, oh là, tu prends un chemin dangereux, fais pas ça, tu vas te planter. Si tu te mets avec telle personne, c'est sûr, ça va mal se finir. Mais continue pas sur ce chemin, tu vas foirer ta vie, tu vas rater tes études, mais arrête d'avoir ce comportement avec ces gens-là, au bout d'un moment tu vas te retrouver seul. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des conseils comme ça à donner aux gens, parce qu'on sent tellement que leur manière de faire va les amener forcément à un chemin, à une finalité. La plupart du temps on a raison, on n'est pas des géniaux, mais il y a des chemins comme ça, c'est normal. Celui qui se tape avec un marteau sur les doigts, il va se faire mal. Et bien souvent, on s'aperçoit que les gens qui n'écoutent pas les conseils finissent par vivre les conséquences de leur choix. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand quelqu'un, un pécheur, se repent de ses péchés et qu'il se donne au Seigneur, on voit un changement dans sa vie, n'est-ce pas? Et là, plus personne n'est capable de dire ce qu'il deviendra. N'est-ce pas?
Amen.
Parce qu'on ne sait pas ce que le Seigneur va faire de lui.
Gloire à Dieu.
On ne sait pas ce qu'il va devenir. On sait que, oh oui, on est capable de lui dire, oh, mais si tu continues, tu verras, le Seigneur sera avec toi. Tu verras, tu connaîtras des moments difficiles, mais tu feras des expériences. Mais on ne veut pas dire, ça va forcément se terminer mal, ou c'est comme ça, c'est dans ce carcan que tu vas rentrer, tu vas devenir comme ci ou comme ça, non. On sent que quand quelqu'un rencontre le Seigneur, il y a une vie qui naît et on sent que ça va devenir quelque chose, mais on ne peut pas déjà finaliser ce qu'il deviendra. Parce que Dieu fait infiniment au-delà de ce que l'on peut demander ou penser. On a un Dieu qui fait infiniment là, au-delà de ce que l'on peut penser ou demander. Qui aurait pu imaginer que Pierre, vous connaissez Pierre dans la Bible? Ce gars-là qui tremblait. Oh non, je ne veux pas être reconnu comme un disciple. Prêt à renier son maître. Qui aurait pu imaginer que cet homme, tout tremblant comme ça, prêt à renier, sera celui qui prêchera à des foules? Qui aurait pu imaginer que Jean, avec son frère Jacques, qui était capable, Seigneur, tu veux qu'on envoie le feu sur ces Samaritains? Vous voyez l'état d'esprit? Il était prêt à tuer ces gens, hein, c'est ça que ça veut dire, hein? Comment imaginer que cet homme qui avait cette animosité, cet orgueil, cette méchanceté dans son cœur sera quelques années après, par la grâce de Dieu, celui qu'on appellera l'apôtre de l'amour? Comment imaginer qu'un homme qui naît sans bras, sans jambes, puisse être un instrument de bénédiction sur toute la surface de la terre avec des centaines de millions de convertis, centaines de milliers de convertis? Qui aurait pu imaginer mettre au monde un enfant sans bras, sans jambes, et dire, oh, lui, ça va bien sa vie? Non, ça c'est le calcul humain. Mais notre Dieu fait des choses qui sont au-delà de ce que l'on peut penser,
amen,
ou même
amen,
demander,
amen,
du Seigneur. Ne regardons pas les choses comme nous on les vit, mais Demandons au Seigneur de voir comme lui les voit. J'ai rencontré des évangélistes internationaux. Ah oui, mais ils sont pas nés dans le ventre de leur mère avec la Bible à la main. Il y en a, je connais un gars, il est né bègue. Déclaré, il tombait malade régulièrement, donc déclaré, fini quoi, par la médecine. Bègue, mauvaise santé. Et en plus, il était hyper timide. Il supportait pas d'être devant les gens, de leur parler. Mais comment se fait-il? Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une telle personne, Dieu en fasse un évangéliste international? Comment l'imaginer? Parce qu'il a réalisé qu'il est le temple du Saint-Esprit.
Amen.
C'est tout. Et qu'il s'est laissé faire, qu'il s'est laissé renouveler, et qu'il s'est laissé vivre. Comment imaginer? Mais bien aimé, et ça c'est le rêve de tout prédicateur. Comment imaginer qu'en une seule prédication, 3000 âmes soient rajoutées à l'église, mes bien-aimés. 3000 âmes. Moi, je fais des calculs. Hein. Il y a 60 000 âmes à sauver. Si on gagne 3000 âmes à chaque fois, c'est bon. Là. On peut arriver au bout. On va les gagner. Mais je ne veux pas sourire de l'exemple. Je veux sourire d'espérance. Parce que si Dieu l'a fait hier, si Dieu le fait ailleurs encore actuellement, mais il n'y a pas de raison que le Saint-Esprit soit, on n'est que 5% du Saint-Esprit. Et j'ai même envie de dire, même si j'avais que 5% du Saint-Esprit, je crois que... Allez, même si on gagne 1000 âmes par prédication, ce serait bien quand même, quoi. Hein. À raison de 4 prédications par semaine, c'est pas mal. Mais c'est possible, mes bien-aimés. Si on regarde à nous-mêmes, si on regarde à nos échecs, si on regarde à ce qui s'est mal fait, de ce qui s'est passé hier, bien sûr, on va pas avancer. Mais si on sert dans notre cœur les prodiges, et l'histoire de Gédéon, c'est ça? Gédéon, qu'est-ce qu'il avait dans son cœur? Il avait des défaites, mais il avait surtout le souvenir des prodiges que ses pères lui racontaient. Et c'est ça la conversation avec l'ange. Vaillant héros! Ouais, c'est ça, vaillant héros. Tu te moques de nous, toi? Surtout de moi? Hein? Ils sont où les prodiges que nos pères nous racontaient? Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il y pensait au-dedans de lui.
Oui.
Il aurait très bien pu dire, mais là je suis en train de m'occuper de mon blé, tu sais, c'est compliqué, si je fais pas ça maintenant, on va... Mais il ne focalise pas du tout ses pensées sur lui, ni sur sa famille. La première réponse qu'il a, mais ils sont où les prodiges? Il est où ce Dieu? Il est où ce grand Dieu? Parce qu'au-dedans de lui, ce n'est pas sa fatalité qui l'entretenait, mais c'était ce questionnement, il est où ce Dieu? Nos pères nous ont raconté les miracles et les prodiges. Nos pères nous ont raconté l'intervention miraculeuse de Dieu. Et c'est parce qu'il entretenait ça dans son cœur que l'ange va lui dire, va avec cette force que tu as. Mais j'ai pas de force. Si. Non pas parce que tu es une petite graine, mais parce que dans cette graine, il y a un potentiel. Ta force, c'est parce que tu sais que Dieu est capable d'intervenir. Ta force, elle est dans le fait que tu sais que tu appartiens au peuple de Dieu. Ta force, elle est parce que tu réalises que tu es le temple du Saint-Esprit. Ta force, mon frère, ma sœur, elle est parce que tu sais que tu es enfant de Dieu, que le Seigneur t'a donné de son esprit. Elle est là ta force. Elle est là ma force. Elle est là notre force.
Gloire à Dieu.
Non pas ce que je suis, mais ce que tu m'as donné et ce que tu peux faire avec ce don extraordinaire. Ne nous regardons pas à ce que nous sommes, mais acceptons de regarder comme Dieu regarde les choses. Je vous invite à tourner vos Bibles, vos pages pour aller dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Nous aurons là aussi l'occasion de revenir sur ce passage ultérieurement. Et je veux rester dans cette pensée. Seigneur, nous ne sommes pas des sauterelles, mais tu as fait de moi le temple du Saint-Esprit. Seigneur, je ne veux pas être dans une sous-estimation de ce que je suis, ni dans une surestimation. Je sais, je prends conscience que je suis le temple du Saint-Esprit. Seigneur, je ne veux pas regarder à ce que je suis, mais je veux regarder à ce que toi-même tu es capable de faire en moi. Seigneur, si tout ça c'est vrai, alors je réalise petit à petit que peut-être que tu pourrais te servir de moi. Et vous êtes Actes chapitre 4. On va commencer la lecture à partir du verset 23. À un moment, je vais couper la lecture et je vais vous poser une question, d'accord ? Donc, soyez pas étonnés. Alors là, on est au verset 23. Après avoir été relâché, il. Alors, il, c'est qui ? C'est Pierre et Jean. Hein, vous lirez à la maison avant. Pierre et Jean ont été arrêtés parce qu'ils prêchaient l'évangile. Ils ont arrêté et on leur a dit « On vous interdit de parler au nom de Jésus-Christ !»«
Oh ben non, on peut pas. »
« Bon, bah vous, on va vous battre alors. Hein. » Allez, ils ont battu, ils les ont relâchés. Et là, les frères, ils repartent et après avoir été relâchés, leur première réaction, ils allèrent vers les leurs. Pierre et Jean, d'accord hein, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, donc l'Église, hein, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, hein, on est toujours dans la réunion de prière, c'était leur mentalité. Vois leurs menaces. Les menaces qui étaient adressées à qui ? Pierre, Jean et les disciples. Et donne à tes serviteurs. Qui c'est qui les serviteurs qui sont en train de dire de... Pierre et Jean, d'accord. D'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. D'accord ? Donc, la réunion de prière. Pierre, Jean viennent, l'Église fait quoi ? Elle prie, et elle prie pour qui ? Pour les serviteurs. On a dit que c'était qui les serviteurs ? Alors on lit la suite, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous rempli du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont été exaucés parce que c'était ce qu'ils demandaient. Au verset 29, il dit « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Mais c'est quoi cette histoire ? L'Église prie, Seigneur, tu bénis le pasteur, tu bénis son stagiaire. Je dis, ok, je vais exaucer votre prière, je vais bénir les serviteurs. Et là, ils furent tous. On voit la logique ? C'est que l'état d'esprit de cette Église, c'est qu'ils se voyaient tous, ils réalisaient tous qu'ils étaient les serviteurs du Seigneur. Amen. Amen. Ils réalisaient tous qu'ils étaient l'objet de la bénédiction. Ils réalisaient tous, quand ils priaient, Seigneur, envoie ta bénédiction, envoie le Saint-Esprit sur tes serviteurs. Le Seigneur n'a pas vu un ou deux personnes. Il a vu le cœur de toute l'Église. Et c'est pour ça qu'il les dit que tous allaient vers la voie. Parce qu'ils avaient tous cette mentalité à vouloir être un sujet de bénédiction. Ils avaient tous ce désir d'être le sujet de grâce par lequel le Seigneur passerait pour être un sujet de salut et de guérison, de transformation. Vous êtes tous un instrument de bénédiction. Oui. Et on doit réaliser dans notre cœur que ce n'est pas seulement bénis le pasteur, bénis telle personne, bénis le groupe de chant qui va chanter. Mais Seigneur, si tu as fait de moi le temple du Saint-Esprit, si Seigneur tu as une œuvre que tu veux faire au travers de moi, même si moi je ne la réalise pas tout de suite, même si moi je ne sais pas l'œuvre que tu veux faire en moi, Seigneur, ce qui est important, ce n'est pas de savoir ce que Dieu va faire de nous, mais de nous rendre disponibles. Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire de moi. Je me sens misérable, je me sens incapable. mais j'accepte que tu fasses quelque chose dans ma vie. Je veux bien, Seigneur, et je réalise que je suis l'instrument de bénédiction. Il y a une prière que Jésus nous a demandé de faire. Alors, je sais pas si vous la faites. C'est en Luc chapitre 10, verset 2, que Jésus a dit, nous a demandé de prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Alors il dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Est-ce que vous priez pour ça, mes bien-aimés? Donc moi je vais prier. Pour que toi, sois envoyé. Et mon frère là, il va faire pareil avec l'autre. Mais au bout d'un moment, nos prières, elles vont se... Je vais prier pour Alain, et Alain, il va prier pour Béatrice, et Béatrice va prier pour Alain. Au bout d'un moment, quand deux personnes sur la terre s'accordent pour demander une chose. Et à force de prier pour les autres, Seigneur, envoie le frère, envoie la soeur. Au bout d'un moment, et pourquoi pas moi aussi? Parce que c'est facile de prier pour les autres. Oh Seigneur, tu vois, il y a le ménage à faire, Seigneur, envoie des gens pour faire le ménage, Seigneur, envoie des gens. Mais au bout d'un moment, quand même, notre conscience, elle travaille. Alors je prends l'exemple basique. Mais c'est pareil. Seigneur, envoie des gens pour annoncer l'évangile dans les campagnes. Envoie, hein. Ouais, surtout la sœur là, à côté, là. Voilà, ça fait 5 fois que je prie pour ça et... Et si le Seigneur ne l'envoie pas, est-ce qu'en fait il n'est pas en train d'essayer de chercher à exaucer la prière de l'autre qui dit pareil? Envoie mon frère là, qui prie pour que la sœur elle envoie. Gédéon, il ne s'est pas tourné à droite, il ne s'est pas tourné à gauche quand il lui dit vaillant héros. Il a bien compris que l'ange lui parlait à lui. Alors bien sûr, il était plein d'appréhension. Mais la seule chose que l'ange lui a dit pour le rassurer, je serai avec toi. Et bien aimé, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu voit en nous l'œuvre qu'il peut faire. Seigneur, levons la tête. Seigneur, réalisons que nous sommes l'instrument que Dieu a choisi. Ne tournez pas la tête vers la droite, à gauche. Est-ce que c'est oh non, c'est plutôt ma sœur qui bénit moi, je suis rien. Non, c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a réservé. Et peut-être que toi-même, tu ne le sais toujours pas, parce que comme tu n'oses pas y aller, bah, tu n'as toujours pas découvert. Vous savez, pour découvrir un don, il faut commencer à faire.
Amen. Amen.
Moi, je ne sais pas si je suis un grand cuisinier, parce que de toute façon, je n'insiste pas trop pour savoir si je le suis, quoi. Mais en fait, peut-être que je suis une toque d'or. Mais franchement, je ne fais pas trop d'efforts pour le savoir. Mais vous allez vous apercevoir que là où vous allez travailler pour le Seigneur, c'est là que vous allez vous apercevoir. Ah bon? Ah bon? Un prédicateur de l'évangile ne le sait pas quand il naît.
C'est vrai.
Il va commencer à s'exercer. J'ai connu une sœur, c'était à l'école biblique. Elle avait un don, mais pour toucher le cœur des gens. Elle ne faisait jamais d'évangélisation ni rien. Et moi, je me suis toujours engagé dans l'évangélisation et je n'ai jamais porté de fruits. Jamais. Mais je l'ai fait par obéissance au Seigneur. Si le Seigneur nous dit d'y aller, il faut y aller.
Amen.
Les fruits, c'est pas notre boulot, ça. Les comptes, c'est le Seigneur qui le fait. Alors, j'encourageais les frères, allez, il faut y aller. Puis il y a une soeur, elle est venue. J'espère qu'elle n'entendra pas la prédication sur Internet, mais franchement, c'est pas le genre de fille où on dirait, oh putain, elle a un truc... Vous savez, il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, lui, il va crocher avec l'évangélisation parce qu'il a du bagou, il a du style, il est bien, il a le feeling, vous voyez ?» Calcul humain, naturel. Voilà. Avec le Seigneur, ce n'est pas le naturel qui importe. C'est comment lui voit les choses, comment lui communique. Ouais. Et cette fille-là, oh, vraiment pas la mine style, cool. Et chaque fois qu'elle sortait, des grands gaillards pleuraient devant elle. À chaque fois qu'elle sortait, elle revenait avec une âme à l'église. Il y avait une grâce, quelque chose qui était en elle. Elle était une vraie évangéliste, au sens propre du terme, celle qui gagne les âmes. Mais si jamais elle s'était engagée dans l'évangélisation, Si tu vois, tu dis, oh bah non, tu sais, moi je sais pas trop faire, c'est pas mon truc, je sais pas comment on fait, j'ai jamais fait, alors je vais jamais faire. Mais tous les hommes que j'ai vus pleurer devant elle, le cœur touché, les couples qui venaient à la réunion, mais qu'ils l'avaient rencontrée dans la rue et que elle n'avait pas une manière de faire plus que les autres, mais elle était à sa place, à la place que Dieu lui avait demandé d'être.
Amen.
Elle était l'instrument de bénédiction. Elle ne s'est pas dit, oh, il y a déjà 15 jeunes qui vont faire de l'évangélisation, alors c'est bon, moi je peux rester là. Et bien aimé, nous sommes l'instrument de bénédiction. Pour quelle bénédiction, j'en sais rien. Pour quelle œuvre, j'en sais rien. Mais c'est quand on commence à mettre la main à la pâte.
Amen.
C'est quand on met la charrue. C'est quand on attelle le bœuf et la charrue que l'on voit le travail qui se réalise. Voilà. Si nous restons dehors, il fait trop froid. Oh non, j'ai jamais fait ça, alors je ne sais pas faire. Je regarde ma femme parce que... Mais tu fermes les oreilles. Moi, de temps en temps, je gronde ma femme. Parce qu'il y a des fois, elle me dit, « Ah, mais je ne sais pas faire. » Je dis, « C'est pas vrai. Comme tu n'as jamais fait, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas faire. On ne sait pas faire. » Mais comment... Si, quand on a fait 50 fois la chose et qu'on n'y arrive toujours pas, effectivement, si vous continuez à faire cramer les pâtes à la maison, vous ne savez pas faire. Mais si on n'a jamais cuit les pâtes, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas faire. On y dit, je n'ai jamais fait. Et comme j'ai une femme extraordinaire, chaque fois qu'elle fait, elle y arrive. Et elle sait faire. Mais pour nous, c'est pareil, mes bien-aimés. Ne disons jamais, je ne sais pas faire. Je ne suis pas capable, c'est pas ma place. Allez-y, faites. Et vous verrez. La seule chose que je peux vous dire pour vous rassurer, le Seigneur sera avec vous. C'est la seule sécurité. Je ne vous dis pas que vous êtes capable, je ne vous dis pas que vous avez les capacités, je ne vous dis pas que vous savez la science infuse, je ne vous dis pas que vous verrez du fruit. Je vous dis seulement une chose, parce que c'est le Seigneur qui nous le dit et qui vous le dit. Je serai avec toi. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous avez le Seigneur avec vous. Prenons la place que le Seigneur nous a donnée. Et je voudrais juste terminer par ce verset. C'est un autre soupir de Jésus. Ah, si mon peuple. Ah, si mon peuple. En Ésaïe, tu peux mettre la diapo. En Ésaïe, chapitre 6, verset 8, il est écrit, « J'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Le soupir de Dieu, « Qui enverrai-je ?» Et ce matin, on se dit, « Qui entendra mon appel ? Qui sera prêt à se lever ?» Qui va ouvrir son cœur? Qui va accepter de dire « Me voici, envoie-moi » Ça a été la réponse d'Ésaïe. Il a compris la souffrance qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Qui enverrai-je? Qui? Mais si mon peuple, si mon peuple se levait, si mon peuple priait, mais qui? Que chacun dans notre cœur, nous puissions être sensibles. Que comme Isaïe, nous puissions entendre cette voix nous parler. Dire, Seigneur, je comprends. Je comprends que c'est moi l'instrument de bénédiction. Je comprends que ce n'est pas à ma vie passée que je veux regarder. Je réalise que ce n'est pas ce que j'ai fait hier qui importe. Mais c'est ce que tu vas faire demain. Je me jette par la foi. Je sais que tu seras avec moi. Alors Seigneur, c'est tout ce que je veux savoir. Oui, je suis faible. Oui, je suis misérable. Mais Seigneur, je réponds à ton appel.
Alléluia.
Je lève la main, je me lève et j'obéis par la foi. Amen.